À mon entrée, l'ambassadeur se leva, me tendit la main, inclina sa haute taille et fixa attentivement sur moi ses yeux bleus. Comme les étrangers de passage qui lui étaient présentés, au temps où il représentait la France, était plus ou moins, jusqu'au chanteur connu des personnes de marque, et dont il savait alors qu'il pourrait dire plus tard quand on prononcerait leur nom à Paris ou à Pétersbourg qu'il se rappelait parfaitement la soirée qu'il avait passée avec eux à Munich ou à Sofia, il avait pris l'habitude de leur marquer par son affabilité la satisfaction qu'il avait de les connaître, mais de plus persuadé que dans la vie des capitales, au contact à la fois des individualités intéressantes qui les traversent et des usages du peuple qui les habite, on acquiert une connaissance approfondie, et que les livres ne donnent pas, de l'histoire, de la géographie, des mœurs des différentes nations, du mouvement intellectuel de l'Europe. Il exerçait sur chaque nouveau venu ses facultés aiguës d'observateur afin de savoir de suite à quelle espèce d'homme il avait affaire. Le gouvernement ne lui avait plus depuis longtemps confié de poste à l'étranger, mais dès qu'on lui présentait quelqu'un, ses yeux, comme s'il n'avait pas reçu une notification de sa mise en disponibilité, commençait à observer avec fruit. Cependant que par toute son attitude, il cherchait à montrer que le nom de l'étranger ne lui était pas inconnu. Aussi, tout en me parlant avec bonté et de l'air d'importance d'un homme qui sait sa vaste expérience, il ne cessait de m'examiner avec une curiosité sagace et pour son profit, comme si j'eusse été quelque usage exotique, quelque monument instructif ou quelque étoile en tournée. Et de la sorte, il faisait preuve à la fois, à mon endroit, de la majestueuse amabilité du sage mentor et de la curiosité studieuse du jeune Anacharsis. Il ne m'offrit absolument rien pour la revue des deux mondes, mais me posa un certain nombre de questions sur ce qu'avaient été ma vie et mes études, sur mes goûts, dont j'entendis parler pour la première fois, comme s'il pouvait être raisonnable de les suivre, tandis que j'avais cru jusqu'ici que c'était un devoir de les contrarier. Puisqu'il me portait du côté de la littérature, il ne me détourna pas d'elle. Il m'en parla au contraire avec déférence, comme d'une personne vénérable et charmante, du cercle choisi de laquelle, à Rome ou à Dresde, on a gardé le meilleur souvenir, et qu'on regrette, par suite des nécessités de la vie, de retrouver si rarement. Il semblait m'envier en souriant d'un air presque grivois les bons moments que, plus heureux que lui et plus libre, elle me ferait passer. Mais les termes mêmes dont il se servait me montraient la littérature comme trop différente de l'image que je m'en étais faite à Combray, et je compris que j'avais eu doublement raison de renoncer à elle. Jusqu'ici, je m'étais seulement rendu compte que je n'avais pas le don d'écrire. Maintenant, monsieur de Norpois m'en ôtait même le désir. Je voulus lui exprimer ce que j'avais rêvé. Tremblant d'émotion, je me serais fait un scrupule que toutes mes paroles ne fussent pas l'équivalent le plus sincère possible de ce que j'avais senti, et que je n'avais jamais essayé de me formuler, c'est dire que mes paroles n'eurent aucune netteté. Peut-être par habitude professionnelle, peut-être en vertu du calme qu'acquiert tout homme important dont on sollicite le conseil, et qui, sachant qu'il gardera en main la maîtrise de la conversation, laisse l'interlocuteur s'agiter, s'efforcer, peiner à son aise, peut-être aussi pour faire valoir le caractère de sa tête, selon lui grec, malgré les grands favoris, monsieur de Norpois, pendant qu'on lui exposait quelque chose, gardait une immobilité de visage aussi absolue que si vous aviez parlé devant quelque buste antique et sourd dans une liptothèque. tout à coup, tombant comme le marteau du commissaire-priseur ou comme un oracle de Delphes, la voix de l'ambassadeur qui vous répondait vous impressionnait d'autant plus que rien dans sa face ne vous avait laissé soupçonner le genre d'impression que vous aviez produit sur lui, ni l'avis qu'il allait émettre. « Précisément, me dit-il tout à coup comme si la cause était jugée, et après m'avoir laissé bafouiller en face des yeux immobiles qui ne me quittaient pas un instant, j'ai le fils d'un de mes amis qui, mutatis mutandis, est comme vous. » Et il prit pour parler de nos dispositions communes le même ton rassurant que si elles avaient été des dispositions non pas à la littérature, mais au rhumatisme, et s'il avait voulu me montrer qu'on n'en mourait pas. Aussi a-t-il préféré quitter le quai d'Orsay, où la voie lui était pourtant toute tracée par son père, et sans se soucier du « qu'en dira-t-on », il s'est mis à produire. Il n'a certes pas lieu de s'en repentir. Il a publié il y a 2 ans, il est d'ailleurs beaucoup plus âgé que vous naturellement, un ouvrage relatif au sentiment de l'infini sur la rive occidentale du lac Victoria Nyanza, et cette année un opuscule moins important, mais conduit d'une plume alerte, parfois même acérée, sur le fusil à répétition dans l'armée bulgare, qui l'ont mis tout à fait hors de pair. Il a déjà fait un joli chemin, il n'est pas homme à s'arrêter en route, et je sais que, sans que l'idée d'une candidature ait été envisagée, on a laissé tomber son nom 2 ou 3 fois dans la conversation et d'une façon qui n'avait rien de défavorable à l'Académie des sciences morales. En somme, sans pouvoir dire encore qu'il soit au pinacle, il a conquis de haute lutte une fort jolie position, et le succès, qui ne va pas toujours qu'aux agités et aux brouillons, aux faiseurs d'embarras qui sont presque toujours des faiseurs, le succès a récompensé son effort. Mon père, me voyant déjà académicien dans quelques années, respirait une satisfaction que M. de Norpois porta à son comble quand, après un instant d'hésitation pendant lequel il sembla calculer les conséquences de son acte, il me dit en me tendant sa carte « Allez donc le voir de ma part, il pourra vous donner d'utiles conseils ». Me causant par ces mots une agitation aussi pénible que s'il m'avait annoncé qu'on m'embarquait le lendemain comme mousse à bord d'un voilier. Ma tante Léonie m'avait fait héritier, en même temps que de beaucoup d'objets et de meubles fort embarrassants, de presque toute sa fortune liquide, révélant ainsi, après sa mort, une affection pour moi que je n'avais guère soupçonnée pendant sa vie. Mon père, qui devait gérer cette fortune jusqu'à ma majorité, consulta M. de Norpois sur un certain nombre de placements. Il conseilla des titres à faible rendement qu'il jugeait particulièrement solides, notamment les consolidés anglais et le 4% russe. Avec ces valeurs de tout premier ordre, dit M. de Norpois, si le revenu n'est pas très élevé, vous êtes du moins assuré de ne jamais voir fléchir le capital. Pour le reste, mon père lui dit en gros ce qu'il avait acheté. Monsieur de Norpois eut un imperceptible sourire de félicitation. Comme tous les capitalistes, il estimait la fortune une chose enviable, mais trouvait plus délicat de ne complimenter que par un signe d'intelligence à peine avoué au sujet de celle qu'on possédait. D'autre part, comme il était lui-même colossalement riche, il trouvait de bon goût d'avoir l'air de juger considérable les revenus moindres d'autrui, avec pourtant un retour joyeux et confortable sur la supériorité des siens. En revanche, il n'hésita pas à féliciter mon père de la composition de son portefeuille, d'un goût très sûr, très délicat, très fin. On aurait dit qu'il attribuait aux relations des valeurs de bourse entre elles, et même aux valeurs de bourse en elles-mêmes, quelque chose comme un mérite esthétique. D'une assez nouvelle et ignorée dont mon père lui parla, monsieur de Norpois, pareil à ces gens qui ont lu des livres que vous vous croyez seul à connaître, lui dit « Mais si, je me suis amusé pendant quelque temps à la suivre dans la côte, elle était intéressante. » Avec le sourire, rétrospectivement captivé d'un abonné qui a lu le dernier roman d'une revue par tranche en feuilleton. Je ne vous déconseillerais pas de souscrire à l'émission qui va être lancée prochainement. Elle est attrayante, car on vous offre les titres à des prix tentants. Pour certaines valeurs anciennes, au contraire, mon père ne se rappelant plus exactement les noms, faciles à confondre avec ceux d'actions similaires, ouvrit un tiroir et montra les titres mêmes à l'ambassadeur. Leur vue me charma. Ils étaient enjolivés de flèches de cathédrale et de figures allégoriques, comme certaines vieilles publications romantiques que j'avais feuilletées autrefois. Tout ce qui est d'un même temps se ressemble. Les artistes qui illustrent les poèmes d'une époque sont les mêmes que font travailler pour elles les sociétés financières, et rien ne fait mieux penser à certaines livraisons de Notre-Dame de Paris et d'œuvres de Gérard de Nerval, telles qu'elles étaient accrochées à la devanture de l'épicerie de Combray, que dans son encadrement rectangulaire et fleuri que supportaient des divinités fluviales, une action nominative de la Compagnie des Eaux. Mon père avait, pour mon genre d'intelligence, un mépris suffisamment corrigé par la tendresse pour qu'au total son sentiment sur tout ce que je faisais fût une indulgence aveugle. Aussi n'hésita-t-il pas à m'envoyer chercher un petit poème en prose que j'avais fait autrefois à Combray en revenant d'une promenade. Je l'avais écrit avec une exaltation qu'il me semblait devoir communiquer à ceux qui le liraient. Mais elle ne dut pas gagner monsieur de Norpois, car ce fut sans me dire une parole qu'il me le rendit. Ma mère, pleine de respect pour les occupations de mon père, vint demander timidement si elle pouvait faire servir. Elle avait peur d'interrompre une conversation où elle n'aurait pas eu à être mêlée. Et en effet, à tout moment, mon père rappelait au marquis quelques mesures utiles qu'ils avaient décidé de soutenir à la prochaine séance de commission. Et il le faisait sur le ton particulier, comptant ensemble dans un milieu différent, pareil en cela à deux collégiens, deux collègues à qui leurs habitudes professionnelles créent des souvenirs communs où n'ont pas accès les autres et auxquels ils s'excusent de se reporter devant eux. Mais la parfaite indépendance des muscles du visage à laquelle M. de Norpois était arrivé lui permettait d'écouter sans avoir l'air d'entendre. Mon père finissait par se troubler. J'avais pensé à demander l'avis de la commission, disait-il à M. de Norpois, après de longs préambules. Alors, du visage de l'aristocratique virtuose qui avait gardé l'inertie d'un instrumentiste dont le moment n'est pas venu d'exécuter sa partie, sortait avec un débit égal, sur un ton aigu et comme ne faisant que finir, mais confié cette fois à un autre timbre, la phrase commençait. Que bien entendu, vous n'hésiterez pas à réunir, d'autant plus que les membres vous sont individuellement connus et peuvent facilement se déplacer. Ce n'était pas évidemment en elle-même une terminaison bien extraordinaire, mais l'immobilité qui l'avait précédée la faisait se détacher avec la netteté cristalline, l'imprévu quasi malicieux de ces phrases, par lesquelles le piano, silencieux jusque-là, réplique, au moment voulu, au violoncelle qu'on vient d'entendre, dans un concerto de Mozart. « Eh bien, as-tu été content de ta matinée ?» me dit mon père, tandis qu'on passait à table, pour me faire briller en pensant que mon enthousiasme me ferait bien juger par M. de Norpois. Il est allé entendre la Berma tantôt, Vous vous rappelez que nous en avions parlé ensemble ? Dit-il en se tournant vers le diplomate, du même ton d'allusion rétrospective, technique et mystérieuse, que s'il se fût agi d'une séance de la commission. Vous avez dû être enchanté, surtout si c'était la première fois que vous l'entendiez. Monsieur votre père s'alarmait du contre-coup que cette petite escapade pouvait avoir sur votre état de santé, car vous êtes un peu délicat, un peu frêle, je crois. Mais je l'ai rassuré. Les théâtres ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient il y a seulement 20 ans. Vous avez des sièges à peu près confortables, une atmosphère renouvelée. Quoique nous ayons fort à faire encore pour rejoindre l'Allemagne et l'Angleterre, qui, à cet égard, comme à bien d'autres, ont une formidable avance sur nous. Je n'ai pas vu Madame Berma dans Phèdre, mais j'ai entendu dire qu'elle y était admirable. Et vous avez été ravi, naturellement. Monsieur de Norrois, 1000 fois plus intelligent que moi, devait détenir cette vérité que je n'avais pas su extraire du jeu de la Berma. Il allait me la découvrir. En répondant à sa question, j'allais le prier de me dire en quoi cette vérité consistait, et il justifierait ainsi ce désir que j'avais eu de voir l'actrice. Je n'avais qu'un moment, il fallait en profiter et faire porter mon interrogatoire sur les points essentiels. Mais quels étaient-ils ? Fixant mon attention tout entière sur mes impressions si confuses, et ne songeant nullement à me faire admirer de M. de Norpois, mais à obtenir de lui la vérité souhaitée, je ne cherchais pas à remplacer les mots qui me manquaient par des expressions toutes faites. Je balbutiais. Et finalement, pour tâcher de le provoquer et lui faire déclarer ce que la Berma avait d'admirable, je lui avouai que j'avais été déçu. « Mais comment ? » s'écria mon père, ennuyé de l'impression fâcheuse que l'aveu de mon incompréhension pouvait produire sur M. de Norpois. « Comment peux-tu dire que tu n'as pas eu de plaisir ? Ta grand-mère nous a raconté que tu ne perdais pas un mot de ce que la Berma disait, que tu avais les yeux hors de la tête, qu'il n'y avait que toi dans la salle comme cela. Mais oui, j'écoutais de mon mieux pour savoir ce qu'elle avait de si remarquable. Sans doute elle est très bien. Si elle est très bien, qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Une des choses qui contribue certainement au succès de Madame Berma, dit M. de Norpois en se tournant avec application vers ma mère pour ne pas la laisser en dehors de la conversation, et afin de remplir consciencieusement son devoir de politesse envers une maîtresse de maison, c'est le goût parfait qu'elle apporte dans le choix de ses rôles, et qui lui vaut toujours un franc succès et de bon aloi. Elle joue rarement des médiocrités. Voyez, elle s'est attaquée au rôle de Phèdre. D'ailleurs, ce goût, elle l'apporte dans ses toilettes, dans son jeu. Bien qu'elle ait fait de fréquentes et fructueuses tournées en Angleterre et en Amérique, la vulgarité, je ne dirais pas de John Bull, ce qui serait injuste au moins pour l'Angleterre de l'ère victorienne, mais de l'oncle Sam, n'a pas déteint sur elle. Jamais de couleurs trop voyantes, de crises exagérées. Et puis cette voix admirable qui la sert si bien, et dont elle joue à ravir, je serais presque tenté de dire en musicienne. Mon intérêt pour le jeu de la Berma n'avait cessé de grandir depuis que la représentation était finie, parce qu'il ne subissait plus la compression et les limites de la réalité. Mais j'éprouvais le besoin de lui trouver des explications. De plus, il s'était porté avec une intensité égale pendant que la Berma jouait sur tout ce qu'elle offrait dans l'indivisibilité de la vie, à mes yeux, à mes oreilles. Il n'avait rien séparé et distingué, aussi fut-il heureux de se découvrir une cause raisonnable dans ses éloges donnés à la simplicité, au bon goût de l'artiste. Il les attirait à lui par son pouvoir d'absorption. s'emparer d'eux comme l'optimisme d'un homme ivre, des actions de son voisin dans lesquelles il trouve une raison d'attendrissement. « C'est vrai, » me disais-je, « quelle belle voix, quelle absence de cris, quel costume simple, quelle intelligence d'avoir été choisir Phèdre. Non, je n'ai pas été déçu. » Le bœuf froid aux carottes fit son apparition, couché par le Michel-Ange de notre cuisine, sur d'énormes cristaux de gelée, pareils à des blocs de quartz transparents. « Vous avez un chef de tout premier ordre, madame, » dit monsieur de Norpois. « Et ce n'est pas peu de chose. Moi qui ai eu à l'étranger à tenir un certain train de maison, je sais combien il est souvent difficile de trouver un parfait maître-queue. Ce sont de véritables agapes auxquelles vous nous avez conviés là. » Et en effet, François, surexcité par l'ambition de réussir pour un invité de marque, un dîner enfin semé de difficultés dignes d'elle, s'était donné une peine qu'elle ne prenait plus quand nous étions seuls, et avait retrouvé sa manière incomparable de combrer. Voilà ce qu'on ne peut obtenir au cabaret, je dis dans les meilleurs, une daube de bœuf où la gelée ne sent pas la colle et où le bœuf ait pris le parfum des carottes. C'est admirable. Permettez-moi d'y revenir, ajouta-t-il en faisant signe qu'il voulait encore de la gelée. Je serais curieux de juger votre vatel maintenant sur un mets tout différent. Je voudrais par exemple le trouver aux prises avec le bœuf stroganoff. Monsieur de Norpois, pour contribuer lui aussi à l'agrément du repas, nous servit diverses histoires dont il régalait fréquemment ses collègues de carrière, tantôt en citant une période ridicule dite par un homme politique coutumier du fait et qui les faisait longues et pleines d'images incohérentes, tantôt telle formule lapidaire d'un diplomate plein d'atticisme. Mais à vrai dire, le critérium qui distinguait pour lui ces deux ordres de phrases ne ressemblait en rien à celui que j'appliquais à la littérature. Bien des nuances m'échappaient, les mots qu'il récitait en s'esclaffant ne me paraissaient pas très différents de ceux qu'il trouvait remarquables. Il appartenait au genre d'homme qui, pour les œuvres que j'aimais, eût dit « Alors vous comprenez, moi j'avoue que je ne comprends pas. Je ne suis pas initié. » Mais j'aurais pu lui rendre l'appareil. Je ne saisissais pas l'esprit ou la sottise, l'éloquence ou l'enflure qu'il trouvait dans une réplique ou dans un discours, et l'absence de toute raison perceptible pourquoi ceci était mal et ceci bien faisait que cette sorte de littérature m'était plus mystérieuse, me semblait plus obscure qu'aucune. Je démêlais seulement que répéter ce que tout le monde pensait n'était pas en politique une marque d'infériorité, mais de supériorité, quand monsieur de Norpois se servait de certaines expressions qui traînaient dans les journaux et les prononçait avec force, on sentait qu'elles devenaient un acte par le seul fait qu'il les avait employées, et un acte qui susciterait des commentaires. Ma mère comptait beaucoup sur la salade d'ananas et de truffes. Mais l'ambassadeur, après avoir exercé un instant sur le mets la pénétration de son regard d'observateur, la mangea en restant entouré de discrétion diplomatique et ne nous livra pas sa pensée. Ma mère insista pour qu'il en reprît, ce que fit monsieur de Norpois, mais en disant seulement, au lieu du compliment qu'on espérait, « J'obéis, madame, puisque je vois que c'est là, de votre part, un véritable oukase. » Nous avons lu dans les feuilles que vous vous étiez entretenu longuement avec le roi Théodose, lui dit mon père. En effet, le roi, qui a une rare mémoire des physionomies, a eu la bonté de se souvenir, en m'apercevant à l'orchestre, que j'avais eu l'honneur de le voir plusieurs jours à la cour de Bavière, quand il ne songeait pas à son trône oriental. Vous savez qu'il y a été appelé par un congrès européen, et il a même fort hésité à l'accepter, jugeant cette souveraineté un peu inégale à sa race, la plus noble, héraldiquement parlant de toute l'Europe. Un aide-de-camp est venu me dire d'aller saluer Sa Majesté, à l'ordre de qui je me suis naturellement empressé de déférer. Avez-vous été content des résultats de son séjour ? Enchanté ! Il était permis de concevoir quelque appréhension sur la façon dont un monarque encore si jeune se tirerait de ce pas difficile, surtout dans des conjectures aussi délicates. Pour ma part, je faisais pleine confiance au sens politique du souverain, mais j'avoue que mes espérances ont été dépassées. Le toast qu'il a prononcé à l'Élysée, et qui, d'après des renseignements qui me viennent de sources tout à fait autorisées, avait été composé par lui du premier mot jusqu'au dernier, était entièrement digne de l'intérêt qu'il a suscité partout. C'est tout simplement un coup de maître, un peu hardi, je le veux bien, mais d'une audace qu'en somme l'événement a pleinement justifié. Les traditions diplomatiques ont certainement du bon, mais dans l'espèce, elles avaient fini par faire vivre son pays et le nôtre dans une atmosphère de renfermé qui n'était plus respirable. Eh bien, une des manières de renouveler l'air, évidemment une de celles qu'on ne peut pas recommander, mais que le roi Théodose pouvait se permettre, c'est de casser les vitres, et il l'a fait avec une belle humeur qui a ravi tout le monde. Et aussi une justesse dans les termes, où on a reconnu tout de suite la race de prince lettré à laquelle il appartient par sa mère. Il est certain que quand il a parlé des affinités qui unissent son pays à la France, l'expression, pour peu usitée qu'elle puisse être dans le vocabulaire des chancelleries, était singulièrement heureuse. Vous voyez que la littérature ne nuit pas, même dans la diplomatie, même sur un trône, ajouta-t-il en s'adressant à moi. La chose était constatée depuis longtemps, je le veux bien, et les rapports entre les deux puissances étaient devenus excellents. Encore fallait-il qu'elle fût dite. Le mot était attendu, il a été choisi à merveille. Vous avez vu comme il a porté. Pour ma part, j'y applaudis dès demain. Votre ami, monsieur de Vaugoubert, qui préparait le rapprochement depuis des années, a dû être content. D'autant plus que Sa Majesté, qui est assez coutumière du fait, avait tenu à lui en faire la surprise. Cette surprise a été complète du reste pour tout le monde, à commencer par le ministre des Affaires étrangères, qui, à ce qu'on m'a dit, ne l'a pas trouvé à son goût. À quelqu'un qui lui en parlait, il aurait répondu très nettement, assez haut pour être entendu des personnes voisines, « Je n'ai été ni consulté, ni prévenu », indiquant clairement par là qu'il déclinait toute responsabilité dans l'événement. Il faut avouer que celui-ci a fait un beau tapage, et je n'oserais pas affirmer, ajouta-t-il avec un sourire malicieux, que tel de mes collègues, pour qui la loi suprême semble être celle du moindre effort, n'en ont pas été troublés dans leur quiétude. Quant à Vaugoubert, vous savez qu'il avait été fort attaqué pour sa politique de rapprochement avec la France, et il avait dû d'autant plus en souffrir que c'est un sensible, un cœur exquis. J'en puis d'autant mieux témoigner que, bien qu'il soit mon cadet et de beaucoup, je l'ai fort pratiqué. Nous sommes amis de longue date et je le connais bien. D'ailleurs, qui ne le connaîtrait ? C'est une âme de cristal. C'est même le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher. Il n'est pas nécessaire que le cœur d'un diplomate soit aussi transparent que le sien. Cela n'empêche pas qu'on parle de l'envoyer à Rome, ce qui est un bel avancement, mais un bien gros morceau. Entre nous, je crois que Vaugoubert, si dénué qu'il soit d'ambition, en serait fort content et ne demande nullement qu'on éloigne de lui ce calice. Il fera peut-être merveille là-bas. Il est le candidat de la consulta et pour ma part, je le vois très bien, lui si artiste, dans le cadre du palais Farnèse et la galerie des Carrache. Il semble qu'au moins personne ne devrait pouvoir le haïr, mais il y a autour du roi Théodose toute une camarilla plus ou moins inféodée à la Wilhelmstrasse, dont elle suit docilement les inspirations et qui a cherché de toute façon à lui tailler des croupières. Vaugoubert n'a pas eu affaire seulement aux intrigues de couloir, mais aux injures de folliculaire à gage, qui plus tard, lâche comme l'est tout journaliste stipendié, ont été des premiers à demander la manne, mais qui en attendant n'ont pas reculé à faire état contre notre représentant des ineptes accusations de gens sans aveu. Pendant plus d'un mois, les ennemis de Vaugoubert ont dansé autour de lui la danse du scalp, dit M. de Norpois en détachant avec force ce dernier mot. Mais un bon averti en vaut deux, ces injures, il les a repoussées du pied, ajouta-t-il plus énergiquement encore, et avec un regard si farouche que nous cessâmes un instant de manger. Comme dit un beau proverbe arabe, les chiens aboient, la caravane passe. Après avoir jeté cette citation, M. de Norpois s'arrêta pour nous regarder et juger de l'effet qu'elle avait produit sur nous. Il fut grand, le proverbe nous était connu, il avait remplacé cette année-là chez les hommes de haute valeur cet autre « qui sème le vent récolte la tempête », lequel avait besoin de repos n'étant pas infatigable et vivace comme « travailler pour le roi de Prusse ». Car la culture de ces gens éminents était une culture alternée et généralement triennale. Certes, les citations de ce genre et desquelles M. de Norpois excellait à émailler ses articles de la revue n'étaient point nécessaires pour que ceux-ci parussent solides et bien informés. Même dépourvus de l'ornement qu'elles apportaient, il suffisait que M. de Norpois écrivît à point nommé, ce qu'il ne manquait pas de faire, le cabinet de Saint James ne fut pas le dernier à sentir le péril, ou bien l'émotion fut grande au pont aux Chantres, où l'on suivait d'un œil inquiet la politique égoïste, mais habile, de la monarchie bicéphale. Ou un cri d'alarme partit de Montecitorio. Ou encore, cet éternel double jeu, qui est bien dans la manière du bal-place. À ces expressions, le lecteur profane avait aussitôt reconnu et salué le diplomate de carrière. Mais ce qui avait fait dire qu'il était plus que cela, qu'il possédait une culture supérieure, cela avait été l'emploi raisonné de citations dont le modèle achevé restait alors « Faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances », comme avait coutume de dire le baron Louis. On n'avait pas encore importé d'Orient, la victoire est à celui des deux adversaires qui sait souffrir un quart d'heure de plus que l'autre, comme disent les Japonais. Cette réputation de grand lettré jointe à un véritable génie d'intrigue caché sous le masque de l'indifférence avait fait entrer M. de Norpois à l'Académie des sciences morales. Et quelques personnes pensèrent même qu'il ne serait pas déplacé à l'Académie française. Le jour où, voulant indiquer que c'est en resserrant l'alliance russe que nous pourrions arriver à une entente avec l'Angleterre, il n'hésita pas à écrire « Qu'on le sache bien au Quai d'Orsay, qu'on l'enseigne désormais dans tous les manuels de géographie qui se montrent incomplets à cet égard, qu'on refuse impitoyablement au baccalauréat tout candidat qui ne saura pas le dire, si tous les chemins mènent à Rome. En revanche, la route qui va de Paris à Londres passe nécessairement par Pétersbourg. » Somme toute, continua M. de Norpois en s'adressant à mon père, Vaugoubert s'est taillé là un beau succès et qui dépasse même celui qu'il avait escompté. Il s'attendait en effet à un toast correct, ce qui, après les nuages des dernières années, était déjà fort beau. Mais à rien de plus. Plusieurs personnes qui étaient au nombre des assistants m'ont assuré qu'on ne peut pas, en lisant ce toast, se rendre compte de l'effet qu'il a produit, prononcé et détaillé à merveille par le roi, qui est maître en l'art de dire, et qui soulignait au passage toutes les intentions, toutes les finesses. Je me suis laissé raconter à ce propos un fait assez piquant, et qui met en relief une fois de plus chez le roi Théodose cette bonne grâce juvénile qui lui gagne si bien les cœurs. On m'a affirmé que précisément à ce mot d'affinité, qui était en somme la grosse innovation du discours, et qui défraiera encore longtemps, vous verrez, les commentaires des chancelleries, Sa Majesté prévoyant la joie de notre ambassadeur, qui allait trouver là le juste couronnement de ses efforts, de son rêve, pourrait-on dire, et somme toute son bâton de maréchal, se tourna à demi vers Vaugoubert et fixant sur lui ce regard si prenant des Oettingen, détacha ce mot si bien choisi d'affinité, ce mot qui était une véritable trouvaille, sur un ton qui faisait savoir à tous qu'il était employé à bon escient et en pleine connaissance de cause. Il paraît que Vaugoubert avait peine à maîtriser son émotion, et dans une certaine mesure, j'avoue que je le comprends. Une personne digne de toute créance m'a même confié que le roi se serait approché de Vaugoubert après le dîner, quand Sa Majesté a tenu cercle, et lui aurait dit à mi-voix « Êtes-vous content de votre élève, mon cher marquis ?» Il est certain, conclut M. de Norpois, qu'un pareil toast a plus fait que 20 ans de négociations pour resserrer les deux pays. Leurs affinités, selon la pittoresque expression de Théodose II. Ce n'est qu'un mot, si vous voulez, mais voyez quelle fortune il a faite. Comme toute la presse européenne le répète, quel intérêt il éveille, quel son nouveau il a rendu. Il est d'ailleurs bien dans la manière du souverain. Je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'il trouve tous les jours de purs diamants comme celui-là. Mais il est bien rare que dans ses discours étudiés, mieux encore dans le primeau de la conversation, il ne donne pas son signalement, je l'ai dit, il n'appose pas sa signature, par quelques mots à l'emporte-pièce. Je suis d'autant moins suspect de partialité en la matière que je suis ennemi de toute innovation en ce genre. 19 fois sur 20, elles sont dangereuses. Oui, j'ai pensé que le récent télégramme de l'empereur d'Allemagne n'a pas dû être de votre goût, dit mon père. Monsieur de Norpois leva les yeux au ciel d'un air de dire « Ah, celui-là !» D'abord, c'est un acte d'ingratitude. C'est plus qu'un crime. C'est une faute et d'une sottise que je qualifierais de pyramidale. Au reste, si personne n'y met le holà, l'homme qui a chassé Bismarck est bien capable de répudier peu à peu toute la politique bismarckienne. Alors c'est le saut dans l'inconnu. Et mon mari m'a dit, monsieur, que vous l'entraîneriez peut-être un de ces étés en Espagne. J'en suis ravi pour lui. Mais oui, c'est un projet tout à fait attrayant dont je me réjouis. J'aimerais beaucoup faire avec vous ce voyage, mon cher. Et vous, madame, avez-vous déjà songé à l'emploi des vacances? J'irai peut-être avec mon fils à Balbec, je ne sais. Ah, Balbec est agréable. J'ai passé par là il y a quelques années. On commence à y construire des villas fort coquettes. Je crois que l'endroit vous plaira. Mais puis-je vous demander ce qui vous a fait choisir Balbec? Mon fils a le grand désir de voir certaines églises du pays, surtout celle de Balbec. Je craignais un peu pour sa santé, les fatigues du voyage et surtout du séjour, mais j'ai appris qu'on vient de construire un excellent hôtel qui lui permettra de vivre dans les conditions de confort requises par son état. Ah, il faudra que je donne ce renseignement à certaines personnes qui n'aient pas femme à en faire fi. L'église de Balbec est admirable, n'est-ce pas, monsieur ? Demandai-je, surmontant la tristesse d'avoir appris qu'un des attraits de Balbec résidait dans ces coquettes villas. Non, elle n'est pas mal, mais enfin, elle ne peut soutenir la comparaison avec ces véritables bijoux ciselés que sont les cathédrales de Reims, de Chartres, et à mon goût, la perle de toutes, la Sainte-Chapelle de Paris. Mais l'église de Balbec est en partie romane. En effet, elle est du style roman, qui est déjà par lui-même extrêmement froid, et ne laisse en rien présager l'élégance, la fantaisie des architectes gothiques qui fouillent la pierre comme de la dentelle. L'église de Balbec mérite une visite si on est dans le pays. Elle est assez curieuse, Si un jour de pluie vous ne savez que faire, vous pourrez entrer là, vous verrez le tombeau de Tourville. Est-ce que vous étiez hier au banquet des affaires étrangères ? Je n'ai pas pu y aller, dit mon père. Non, répondit monsieur de Norpois avec un sourire, j'avoue que je l'ai délaissé pour une soirée assez différente. J'ai dîné chez une femme dont vous avez peut-être entendu parler, la belle madame Swann. Ma mère réprima un frémissement, car d'une sensibilité plus prompte que mon père, elle s'alarmait pour lui de ce qui ne devait le contrarier qu'un instant après. Les désagréments qui lui arrivaient étaient perçus d'abord par elle comme ces mauvaises nouvelles de France qui sont connues plutôt à l'étranger que chez nous. Mais curieuse de savoir quel genre de personnes les Swann pouvaient recevoir, elle s'enquit auprès de M. de Norpois de celle qu'il y avait rencontrée. Mon Dieu, c'est une maison où il me semble que vont surtout des messieurs. Il y avait quelques hommes mariés, mais leurs femmes étaient souffrantes ce soir-là et n'étaient pas venues, répondit l'ambassadeur avec une finesse voilée de bonhomie et en jetant autour de lui des regards dont la douceur et la discrétion faisaient mine de tempérer et exagérer habilement la malice. Je dois ajouter, pour être tout à fait juste, qu'il y va cependant des femmes, mais appartenant plutôt, comment dirais-je, au monde républicain qu'à la société de Swann. Il prononçait Swann. Qui sait, ce sera peut-être un jour un salon politique ou littéraire. Du reste, il semble qu'il soit content comme cela. Je trouve que Swann le montre même un peu trop. Il nommait les gens chez qui lui et sa femme étaient invités pour la semaine suivante, et de l'intimité desquels il n'y a pourtant pas lieu de s'enorgueillir, avec un manque de réserve et de goût, presque de tact, qui m'a étonné chez un homme aussi fin. Il répétait « Nous n'avons pas un soir de libre », comme si ça avait été une gloire, et en véritable parvenu, qu'il n'est pas cependant. Car Swann avait beaucoup d'amis et même d'amis. Et sans trop m'avancer ni vouloir commettre d'indiscrétion, je crois pouvoir dire que non pas toutes, ni même le plus grand nombre, mais l'une au moins, et qui est une fort grande dame, ne se serait peut-être pas montrée entièrement réfractaire à l'idée d'entrer en relation avec madame Swann. Auquel cas, vraisemblablement, plus d'un mouton de Panurge aurait suivi. Mais il semble qu'il n'y ait eu de la part de Swann aucune démarche esquissée en ce sens. Comment encore un pudding à la Nesselrode ? Ce ne sera pas de trop de la cure de Carlsbad pour me remettre d'un pareil festin de Lucullus. Peut-être Swann a-t-il senti qu'il y aurait trop de résistance à vaincre. Le mariage, cela est certain, n'a pas plu. On a parlé de la fortune de la femme, ce qui est une grosse bourde. Mais enfin, tout cela n'a pas paru agréable. Et puis Swann a une tante excessivement riche et admirablement posée, femme d'un homme qui, financièrement parlant, est une puissance, et non seulement elle a refusé de recevoir madame Swann, mais elle a mené une campagne en règle pour que ses amis et connaissances en fissent autant. Je n'entends pas par là qu'aucun Parisien de bonne compagnie ait manqué de respect à madame Swann. Non, 100 fois non. Le mari étant d'ailleurs homme à relever le gant. En tout cas, il y a une chose curieuse, c'est de voir combien Swann, qui connaît tant de monde et du plus choisi, montre d'empressement auprès d'une société dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est fort mêlée. Moi qui l'ai connue jadis, j'avoue que j'ai éprouvé autant de surprise que d'amusement à voir un homme aussi bien élevé, aussi à la mode dans les coteries les plus triées, remercier avec effusion le directeur du cabinet du ministre des Postes d'être venu chez eux et lui demander si madame Swann pourrait se permettre d'aller voir sa femme. Il doit pourtant se trouver dépaysé. Évidemment, ce n'est plus le même monde. Mais je ne crois pas cependant que Svan soit malheureux. Il y a eu, il est vrai, dans les années qui précédèrent le mariage, d'assez vilaines manœuvres de chantage de la part de la femme. Elle privait Svan de sa fille chaque fois qu'il lui refusait quelque chose. Le pauvre Svan, aussi naïf qu'il est pourtant raffiné, croyait chaque fois que l'enlèvement de sa fille était une coïncidence et ne voulait pas voir la réalité. Elle lui faisait d'ailleurs des scènes si continuelles qu'on pensait que le jour où elle serait arrivée à ses fins et se serait fait épouser, rien ne la retiendrait plus et que leur vie serait un enfer. Eh bien, c'est le contraire qui est arrivé. On plaisante beaucoup la manière dont Svan parle de sa femme, on en fait même des gorges chaudes. On ne demande certes pas que plus ou moins conscient d'être, vous savez le mot de Molière, il alla le proclamer « urbi et orbi ». N'empêche qu'on le trouve exagéré quand il dit que sa femme est une excellente épouse. Or ce n'est pas aussi faux qu'on le croit. À sa manière, qui n'est pas celle que tous les maris préféreraient, mais enfin entre nous, il me semble difficile que Svan, qui la connaissait depuis longtemps, et est loin d'être un maître sot, ne sût pas à quoi s'en tenir. Il est indéniable qu'elle semble avoir de l'affection pour lui. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas volage, et Svan lui-même ne se fait pas faute de l'être. À en croire les bonnes langues, qui, vous pouvez le penser, vont leur train. Mais elle lui est reconnaissante de ce qu'il a fait pour elle, et contrairement aux craintes éprouvées par tout le monde, elle paraît devenue d'une douceur d'ange. Ce changement n'était peut-être pas aussi extraordinaire que le trouvait Monsieur de Norpois. Odette n'avait pas cru que Swann finirait par l'épouser. Chaque fois qu'elle lui annonçait tendancieusement qu'un homme comme il faut venait de se marier avec sa maîtresse, elle lui avait vu garder un silence glacial et tout au plus si elle l'interpellait directement en lui demandant « Alors tu ne trouves pas que c'est très bien, que c'est bien beau ce qu'il a fait là pour une femme qui lui a consacré sa jeunesse ?» Répondre sèchement « Mais je ne te dis pas que ce soit mal, chacun agit à sa guise. » Elle n'était même pas loin de croire que, comme il le lui disait dans des moments de colère, il l'abandonnerait tout à fait, car elle avait depuis peu entendu dire par une femme sculpteur « On peut s'attendre à tout, de la part des hommes, ils sont si mufles ». Et frappée par la profondeur de cette maxime pessimiste, elle se l'était appropriée. Elle la répétait à tout bout de champ d'un air découragé qui semblait dire « Après tout, il n'y aurait rien d'impossible. C'est bien ma chance. » Et par suite, toute vertu avait été enlevée à la maxime optimiste qui avait jusque-là guidé Odette dans la vie. « On peut tout faire aux hommes qui vous aiment, ils sont si idiots. » Et qui s'exprimait dans son visage par le même clignement d'yeux qui eût pu accompagner des mots tels que « Ayez pas peur, il ne cassera rien. » En attendant, Odette souffrait de ce que telle de ses amies, épousée par un homme qui était resté moins longtemps avec elle qu'elle-même avec Swann, et n'avait pas, elle, d'enfant, relativement considéré maintenant, invité au bal de l'Élysée, devait penser de la conduite de Swann. Un consultant plus profond que ne l'était M. de Norpois eût sans doute pu diagnostiquer que c'était ce sentiment d'humiliation et de honte qui avait aigri Odette, que le caractère infernal qu'elle montrait ne lui était pas essentiel, n'était pas un mal sans remède, et eût aisément prédit ce qui était arrivé, à savoir qu'un régime nouveau, le régime matrimonial, ferait cesser avec une rapidité presque magique ces accidents pénibles, quotidiens, mais nullement organiques. Presque tout le monde s'étonna de ce mariage, et cela même est étonnant. Sans doute peu de personnes comprennent le caractère purement subjectif du phénomène qu'est l'amour, et la sorte de création que c'est d'une personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom dans le monde et dont la plupart des éléments sont tirés de nous-mêmes. Aussi y a-t-il peu de gens qui puissent trouver naturelles les proportions énormes que finit par prendre pour nous un être qui n'est pas le même que celui qu'il voit. Pourtant, il semble qu'en ce qui concerne Odette, on aurait pu se rendre compte que si certes elle n'avait jamais entièrement compris l'intelligence de Swann, du moins savait-elle les titres, tout le détail de ses travaux, au point que le nom de Vermeer lui était aussi familier que celui de son couturier. De Swann, elle connaissait à fond ces traits du caractère que le reste du monde ignore ou ridiculise, et dont seule une maîtresse, une sœur, possède l'image ressemblante et aimée. Et nous tenons tellement à eux, même à ceux que nous voudrions le plus corriger, que c'est parce qu'une femme finit par en prendre une habitude indulgente et amicalement railleuse, pareille à l'habitude que nous en avons nous-mêmes et qu'en ont nos parents, que les vieilles liaisons ont quelque chose de la douceur et de la force des affections de famille. Les liens qui nous unissent à un être se trouvent sanctifiés quand ils se placent au même point de vue que nous pour juger une de nos tares. Et parmi ces traits particuliers, il y en avait aussi qui appartenaient autant à l'intelligence de Swann qu'à son caractère, et que pourtant, en raison de la racine qu'ils avaient malgré tout en celui-ci, Odette avait plus facilement discerné. Elle se plaignait que quand Swann faisait métier d'écrivain, quand il publiait des études, on ne reconnut pas ces traits-là autant que dans ses lettres ou dans sa conversation, où ils abondaient. Elle lui conseillait de leur faire la part la plus grande. Elle l'aurait voulu parce que c'était ce qu'elle préférait en lui, mais comme elle les préférait parce qu'ils étaient plus à lui, elle n'avait peut-être pas tort de souhaiter qu'on les retrouvât dans ce qu'il écrivait. Peut-être aussi pensait-elle que des ouvrages plus vivants, en lui procurant enfin à lui le succès, lui eussent permis à elle de se faire ce que chez les Verdurin, elle avait appris à mettre au-dessus de tout, un salon. Parmi les gens qui trouvaient ce genre de mariage ridicule, gens qui pour eux-mêmes se demandaient « Que pensera monsieur de Guermantes, que dira Bréauté quand j'épouserai mademoiselle de Montmorency ?» Parmi les gens ayant cette sorte d'idéal social, aurait figuré 20 ans plus tôt Swann lui-même. Swann qui s'était donné du mal pour être reçu au jockey et avait compté dans ce temps-là faire un éclatant mariage qui eût achevé, en consolidant sa situation, de faire de lui un des hommes les plus en vue de Paris. Seulement, les images que représente un tel mariage à l'intéressé ont, comme toutes les images, pour ne pas dépérir et s'effacer complètement, besoin d'être alimentées du dehors. Votre rêve le plus ardent est d'humilier l'homme qui vous a offensé. Mais si vous n'entendez plus parler de lui, ayant changé de pays, votre ennemi finira par ne plus avoir pour vous aucune importance. Si on a perdu de vue depuis 20 ans toutes les personnes à cause desquelles on aurait aimé entrer au jockey ou à l'institut, la perspective d'être membre de l'un ou de l'autre de ces groupements ne tentera nullement. Or, tout autant qu'une retraite, qu'une maladie, qu'une conversion religieuse, une liaison prolongée substitue d'autres images aux anciennes. Il n'y eut pas de la part de Swann, quand il épousa Odette, renoncement aux ambitions mondaines, car de ces ambitions-là, depuis longtemps, Odette l'avait, au sens spirituel du mot, détaché. D'ailleurs, ne l'eût-il pas été qu'il n'en aurait eu que plus de mérite. C'est parce qu'ils impliquent le sacrifice d'une situation plus ou moins flatteuse à une douceur purement intime que généralement les mariages infamants sont les plus estimables de tous. On ne peut en effet entendre par mariage infamant un mariage d'argent, n'ayant point d'exemple d'un ménage où la femme, ou bien le mari, se soit vendu et qu'on ait fini par recevoir, ne fût-ce que par tradition et sur la foi de tant d'exemples, et pour ne pas avoir de poids et de mesure. Peut-être, d'autre part, en artiste, sinon en corrompu, Swann eut-il en tout cas éprouvé une certaine volupté à accoupler à lui, dans un de ces croisements d'espèces comme en pratiquent les mandélistes, ou comme en raconte la mythologie, un être de race différente, archiduchesse ou cocotte, à contracter une alliance royale ou à faire une mésalliance. Il n'y avait eu dans le monde qu'une personne dont il se fût préoccupé chaque fois qu'il avait pensé à son mariage possible avec Odette. C'était, et non par snobisme, la duchesse de Guermantes. De celle-là, au contraire, Odette se souciait peu, pensant seulement aux personnes situées immédiatement au-dessus d'elle-même, plutôt que dans un aussi vague empiré. Mais quand Swann, dans ses heures de rêverie, voyait Odette devenue sa femme, il se représentait invariablement le moment où il l'amènerait, elle et surtout sa fille, chez la princesse des Laumes, devenue bientôt duchesse de Guermantes par la mort de son beau-père. Il ne désirait pas les présenter ailleurs, mais il s'attendrissait quand il inventait, en énonçant les mots eux-mêmes, tout ce que la duchesse dirait de lui à Odette, et Odette à madame de Guermantes. La tendresse que celle-ci témoignerait à Gilberte, la gâtant, le rendant fier de sa fille. Il se jouait à lui-même la scène de la présentation avec la même précision dans le détail imaginaire qu'ont les gens qui examinent comment ils emploieraient, s'ils le gagnaient, un lot dont ils fixent arbitrairement le chiffre. Dans la mesure où une image qui accompagne une de nos résolutions la motive, on peut dire que si Swann épousa Odette, ce fut pour la présenter, elle et Gilberte, sans qu'il n'eût personne là, au besoin sans que personne le sût jamais, à la duchesse de Guermantes. On verra comment cette seule ambition mondaine qu'il avait souhaitée pour sa femme et sa fille fut justement celle dont la réalisation se trouva lui être interdite, et par un veto si absolu que Swann mourut sans supposer que la duchesse pourrait jamais les connaître. On verra aussi qu'au contraire, la duchesse de Guermantes se lia avec Odette et Gilberte après la mort de Swann. Et peut-être eût-il été sage, pour autant qu'il pouvait attacher de l'importance à si peu de choses, en ne se faisant pas une idée trop sombre de l'avenir à cet égard, et en réservant que la réunion souhaitée pourrait bien avoir lieu quand il ne serait plus là pour en jouir. Le travail de causalité qui finit par produire à peu près tous les effets possibles, et par conséquent aussi ceux qu'on avait cru l'être le moins, ce travail est parfois lent, rendu un peu plus lent encore par notre désir, qui, en cherchant à l'accélérer l'entrave, par notre existence même, et n'aboutit que quand nous avons cessé de désirer, et quelquefois de vivre. Swann ne savait-il pas, par sa propre expérience, et n'était-ce pas déjà dans sa vie comme une préfiguration de ce qui devait arriver après sa mort, un bonheur après décès, que ce mariage avec cette Odette qu'il avait passionnément aimée, si elle ne lui avait pas plu au premier abord, et qu'il avait épousée quand il ne l'aimait plus? Quand l'être qui, en Swann, avait tant souhaité et tant désespéré de vivre toute sa vie avec Odette, quand cet être-là était mort?